C'est difficile aujourd'hui de ne pas parler sur Sainte Thérèse d'Avila. Je crois que sans être du Carmel, le Carmel a toujours été très thomiste. Je sais bien, Sainte Thérèse avait des dominicains et des jésuites. Elle pouvait les unir, prendre chez l'un et chez l'autre ce qu'il y avait de bon. Ce qu'il y a peut-être de plus émouvant dans la vie de Sainte Thérèse, c'est sa rencontre avec celui qui sera son aide, Saint Jean de la Croix. Sainte Thérèse a opéré un détournement auprès de lui, puisqu'il avait envie d'entrer chez les Chartreux. Et Sainte Thérèse lui a dit non, il faut venir auprès de moi. Montre bien le caractère de Sainte Thérèse, je crois. Elle avait une puissance de conviction très grande, très belle, au service de Dieu. Voir sur Saint Jean de la Croix, sur Jean de la Croix, une grosse influence. Et c'était un peu réciproque. Et c'est une rencontre très belle, hein, au point de vue divin, au point de vue de la charité fraternelle. C'est vraiment une rencontre très belle, à un moment très décisif pour le carême, pour le Carmel, très décisif, puisque le Carmel dégringolait. Par les visites extérieures, on passait son temps plutôt au parloir que auprès du Saint-Sacrement. C'est une tentation, quand on a une vie de silence, de voir une porte ouverte par le parloir. Et Sainte Thérèse a ramené une vie régulière qui a duré jusqu'à nos jours. On peut dire son influence qui se fait sentir aujourd'hui au Carmel. Ce qu'il y a de plus beau dans le caractère surnaturel de Sainte Thérèse, c'est cet amour à l'égard de Jésus qui lui a fait comprendre la nécessité de l'oraison. À ce point de vue-là, c'est très proche de Saint Jean. Il y a tout un aspect d'intimité avec Jésus qui est très fort. Elle passe de la méditation à l'oraison. Alors, sans voir tout toutes les divisions qu'elle fait pour l'oraison, on comprend que ce qui est l'essentiel pour elle, c'est cette vie d'oraison, c'est-à-dire cette vie d'intimité avec Jésus. Jésus est l'épouse de l'âme et elle est l'épouse de Jésus dans cette intimité. Et cette intimité doit être la partie principale de notre vie. Pars principalis est totum, dit saint Thomas. La partie principale, c'est tout. Par la finalité. Sainte Thérèse, pour elle, cette union avec Jésus, cette intimité avec Jésus, dans l'oraison, c'est vraiment la fin, finalité de notre vie sur la terre. Nous devons tout faire pour réaliser cette intimité avec Jésus. C'est, je crois, cela, le secret de Sainte Thérèse. Et c'est ce qu'elle a transmis à ses vraies filles. La vraie fille de Sainte Thérèse, c'est la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Je crois. C'est vraiment la véritable fille. Et on voit toute la différence entre ces deux Thérèses et en même temps leur unité fondamentale. Leur différence, c'est que Sainte Thérèse, humainement parlant, était une maîtresse femme. Ça, je crois que Dieu avait bien choisi Thérèse d'Avila pour être la réformatrice, de tout reprendre, et de tout reprendre par le sommet. C'est ça qui est très beau et qui fait qu'on la comprend tellement bien. Ce qu'elle veut, c'est que ses filles soient formées à l'oraison. C'est la chose principale. Le reste, c'est secondaire. Et c'est en ce sens-là que Sainte Thérèse doit être pour nous aussi une mère qui nous enseigne. Nous avons toujours beaucoup de peine à faire que l'oraison soit pour nous pars principalis, la partie principale, c'est-à-dire celle qui prend possession de toute notre vie. Toute notre vie est finalisée et polarisée par ces moments d'intimité avec Jésus. Et cela doit passer avant tout. Et il faut que ça passe avant tout. Et l'oraison doit être très simple. C'est pas une méditation, hein. Surtout pour nous. Pour nous, c'est-à-dire pour ceux qui font de la théologie. La théologie est une méditation. Elle est une méditation. pour ça que quand nous faisons notre théologie, nous méditons tout le temps. Mais l'oraison, elle est préparée par cette méditation. Lire saint Thomas, c'est merveilleux comme préparation. Et puis, comme c'est une préparation immédiate, lire saint Thomas fait que on prolonge par l'oraison. L'oraison n'est pas une méditation, c'est ce qu'il y a de plus grand dans l'oraison, c'est l'intimité avec Jésus, c'est vraiment l'amitié, une amitié divine, une amitié extrêmement simple, extrêmement purifiante. Être avec Jésus, vraiment en union, en intimité, il n'y a rien de plus sanctifiant. Il n'y a rien de plus profond. Il n'y a rien de plus grand dans notre vie. Et il faut que justement, cette oraison prenne la partie principale de notre vie. On ne peut pas faire oraison tout le temps. Mais on peut faire oraison le plus souvent possible en multipliant ces temps d'oraison. Quand il y a une oraison profonde dans notre vie, alors on peut multiplier ce temps d'oraison par des petits clins d'œil qu'on fait à Jésus. On se remet en face à lui. Très simplement, dans un acte d'amour, un acte de foi, se met sur son cœur, se met dans son cœur, et on demande à son amour de nous porter, de nous transformer. Et cet amour du Christ transforme notre charité, notre lien d'amour. L'oraison, c'est une vie. La méditation est un exercice, tandis que l'oraison, c'est une vie, c'est un acte d'amour prolongé, c'est un acte d'amour qui suscite l'amour du cœur de Jésus. On est poussé par l'Esprit Saint, par le Paraclet, à dire à Jésus qu'on l'aime, et qu'on veut rester avec lui, et qu'on veut demeurer auprès de lui. C'est pour ça que l'analogie de similitude de l'amitié nous fait comprendre cette action du Paraclet en nous. L'action du Paraclet en nous, c'est de nous mettre en oraison. C'est directement cela, puisque le Paraclet, au-dedans de nous-mêmes, nous fait vivre de ces dernières paroles avec Jésus. On ne veut pas perdre ce temps d'oraison, ce temps de méditation. vraiment une vie. Comme dans l'amitié. Dans l'amitié, c'est une vie avec son ami. Et même quand l'ami est loin, c'est une vie avec lui. Il est présent. C'est la présence affective, aimante, qui réalise cette présence et se réalise de l'amitié. Quand il s'agit de l'oraison, nous savons que Jésus est plus présent à notre âme que notre âme n'est présente à elle-même. Il y a une présence d'intimité qui fait que Jésus est source de vie, source d'amour, source de lumière, et cela dès que nous l'implorons, dès que nous faisons pour lui cet acte d'accueil, ce désir de le recevoir, ce désir d'être avec lui, ce désir de l'aimer. Et c'est vraiment ça qui fait l'oraison, c'est ce désir d'aimer. Ce n'est pas les résultats. Sur la terre, on est toujours en croissance d'amour et on ne s'arrête jamais parce que le terme est atteint que par la vision bénéfique. Et donc, tant qu'on est sur la terre, on est in via. Alors, in via, dans ce qu'il y a de plus cher et de plus intime en nous, ce qu'il y a de plus cher et de plus intime en nous, c'est la présence de Jésus, c'est le regard de Jésus, ce regard intime. Nous demandons à Jésus de nous prendre d'une façon toute intime, fait que ce soit Jésus qui vive et que nous pouvons vivre de lui et être tout entier perdu dans son amour, que ce soit son amour qui s'empare complètement de nous pour qu'on n'ait plus qu'à lui dire oui, à lui dire notre amour, que nous l'aimons, que nous sommes tout à lui. C'est quelque chose de très grand. Et je crois que c'est quelque chose de très grand, c'est la présence. Qui unit tous les états différents de l'oraison. Si nous vivons les mystères de joie, de Bethléem, de nativité, si nous vivons les mystères d'union avec lui, c'est Jésus travailleur, c'est Jésus apôtre, et il faut que nos prédications soient en premier lieu cette intimité avec Jésus apôtre pour faire que notre vie ne soit plus à nous, qu'elle soit à lui, qu'elle soit complètement transformée par lui. Il ne faut pas vivre de soi et en soi. Il faut vivre de Jésus. Il faut que ce mystère de présence de Jésus soit vraiment ce qui unit toutes ces diversités de présence. Elles ne sont pas mauvaises, ces diversités de présence. Et bien sûr, le temps liturgique de Noël se passe différemment que le temps liturgique du Vendredi Saint. Et c'est le même Christ, et c'est la même union. Mais quand nous disons la même, il faut justement que nos oraisons soient de plus en plus cette union affective aimante où nous prenons la volonté du Christ et nous y adhérons. La volonté du Christ sur notre volonté. Où la volonté du Christ nous unit. La présence du Christ est quelque chose, c'est le mystère même de l'oraison. Et donc, ça prend tout quand nous vivons de tel mystère en particulier. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'à travers ce mystère, ce soit la présence. On a un tel désir de la vision béatifique qu'on voudrait que déjà, dès cette terre, nous puissions vivre. Et pour que par là, nous ne perdions pas de temps. Vivre encore de tel ou tel mystère, c'est très bien, mais c'est encore à côté. C'est de son amour et de cet amour créateur, de cet amour qui vivifie tout. Et ça, c'est quand même très important, parce que le noyau d'unité avec Jésus, notre âme en son âme, notre cœur en son cœur, vivre cette union avec lui, c'est à ce moment-là une unité de vie qui se réalise en premier lieu dans l'amour. Et c'est pour ça que quand l'oraison est toute divine, il n'y a rien. Il n'y a que l'amour. Et l'amour n'a pas de forme. Il est substantiel en Dieu. Quand nous le voyons à travers le travail de Jésus, à travers sa prédication, à travers sa croix, nous avons encore un support qui nous aide. Jésus nous choisit, il nous a choisis. Et nous sommes, nous, au point de vue de la communauté Saint-Jean, nous sommes toujours à ce point particulier où Jean-Baptiste nous le montre. Nous sommes terre avec lui. Nous sommes avec lui entièrement saisis et nous faisons plus qu'un avec lui. Et nous voulons faire un avec lui. Nous voulons disparaître pour que ce soit lui qui prenne tout. Et une présence amicale, surnaturelle, et qui est vraiment cette présence où le Verbe de Dieu, le Christ, prend tout et donne tout au Père. Et dans notre union avec Jésus, nous sommes donnés au Père. Ce que nous désirons, c'est d'être le plus possible un avec lui. Il y a dans cette présence d'amour le point de vue de la finalité qui prend tout, qui brûle tout. Il est présent dans l'amour. Et c'est l'amour qui fait cette présence. Et c'est l'amour qui est la sensibilité pour recevoir sa sensibilité. Cette présence, c'est la présence du face-à-face, substantiellement. C'est la même présence qui se réalise dans l'amour. Et la très grosse différence, c'est que nous sommes dans l'attente, nous ne voyons rien, mais nous sommes sûrs qu'il est là, et nous sommes entièrement saisis par lui. C'est une présence très pauvre, présence qui peut être extrêmement forte et très riche à ce point de vue-là comme présence, puisque la présence de Dieu, la présence de Jésus en nous, nous saisit entièrement de l'intérieur. Vous voyez, l'horizon pour nous, c'est l'avant-goût de la vision. La vision béatifique dans ce qu'elle a d'amour, c'est déjà un contact avec Jésus qui est celui que nous aurons éternellement. Et on peut dire théologiquement un contact substantiel, et c'est pour ça qu'on dépasse telle ou telle activité de Jésus, telle ou telle modification de sa vie, c'est lui. Lui comme Verbe. Lui comme Père. Lui comme Paraclet. C'est tout de suite une union trinitaire avec le Père, le Verbe et le Paraclet. C'est la vie même de Jésus, la vie même du Verbe, qui prend possession de notre vie. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de substantiel qui peut être uniquement passager, qui peut durer, qui peut être vécu dans une extraordinaire pauvreté. Et alors qu'il nous laisse comme celui qui a soif. Parce que la présence de Jésus n'est pas donnée. La présence de Jésus, elle est en attente. Mais on a l'horizon d'attente. C'est une véritable horizon d'attendre avec les vierges sages qui ont de l'huile dans leur lampe et qui attendent. Oh, voilà les fous qui viennent. Et tant qu'on est sur terre, le voilà les fous qui vient ne nous est pas donné, mais il est vécu dans l'amour. Sans la joie de la lumière, il est vécu avec une très grande intensité dans l'amour. Sages qui ont maintenu de l'huile, cette patience de vivre dans cette attente et ne pas s'arrêter et ne pas se laisser prendre à son imperfection. Désir, une présence qui n'est plus un repos, mais qui fait vivre de l'intensité de l'espérance. Et c'est plus que l'espérance, puisque c'est l'amour dans l'espérance. Et il y a un certain repos dans cette tension, parce que il nous est donné. Il est présent pour nous. Je crois que dans cette fête de Sainte Thérèse, c'est bien cela qu'on doit lui demander. On doit lui demander d'être pour nous ce qu'elle a été pour toutes celles qu'elle a visité de son temps. Auquel on doit revenir tout le temps. Et sûrement que Sainte Thérèse nous donne un exemple merveilleux. Dès qu'on est sanctifié publiquement par l'Église, on dépasse son ordre. Sainte Thérèse était donnée d'abord pour ses filles. Donc elle était sur la terre, mais dès qu'elle est entrée dans le ciel, dès qu'elle a été proclamée sainte, docteur de l'Église, docteur de l'oraison, celle qui apprend l'oraison, et celle qui nous le rappelle tout le temps, elle est donnée à l'Église, c'est pour l'Église. Elle peut être plus unie à quelqu'un de Saint-Jean qu'à une carmélite qui n'est pas très fervente. Tandis que si à Saint-Jean on connaît une grande ferveur pour l'oraison et qu'on supplie Sainte Thérèse de venir nous aider et d'être là. Sainte Thérèse, alors, peut à ce moment-là nous aider d'une façon bien plus forte et bien plus profonde qu'elle ne le fait pour tel ou tel de ses enfants. Il ne faut pas oublier les diversités, hein, entre les différents ordres. Ça existe sur la terre, dans l'Église, mais dans le ciel. Les unions se font en raison de la proximité avec Jésus, en raison de l'intensité d'amour. Alors, il faut que nous demandions très fort à Sainte Thérèse de nous aider tous et chacun en particulier à être fidèle au primat de la raison, être fidèle à considérer que la raison c'est capital et doit être premier dans notre vie. C'est bien évident que la raison nous poussera à la vie apostolique, mais on saura très bien qu'elle est antérieure, la raison est antérieure à la vie apostolique, et que c'est elle qui anime la vie apostolique, c'est elle qui permet à notre vie apostolique d'être toute divine et d'être vraiment pris et saisi par cette vie de raison, et que c'est ça qui fait l'importance de notre vie, c'est ça qui en donne toute sa valeur, et que nous en soyons convaincus, et que quand il y a des périodes difficiles, pénibles, on soit fidèle au moins à la quantité de raison, au temps donné de raison. On soit fidèle à ça. Ça, on peut l'être tout le temps. La qualité de la raison, ça nous dépasse. C'est pas nous qui la faisons. Mais nous la demandons. Et nous en avons un grand désir et une grande souffrance.